BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, nos dépenses publiques, c'est un véritable désastre. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle, pourquoi ? Vous allez me poser la question. Eh bien, parce qu'on va vous donner l'accès à toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine et ce qui va se passer dans les mois qui viennent sur l'économie, sur la finance, sur vos placements. Et en plus, j'ai une quatrième nouvelle exceptionnelle. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez bien fait de nous écouter ou de nous regarder. Le 3 mai à 15h, on va organiser en public une spéciale « C'est votre argent ». Spécial battle, c'est-à-dire qu'on va faire une battle Bitcoin contre l'or, on va faire une battle bourse contre les placements de taux d'intérêt. Finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux aller sur un livret A, sur des obligations plutôt, je vois les gérants qui s'agitent déjà, plutôt que sur des actions, avec le risque qu'on connaît des actions, mais aussi le potentiel énorme, puisqu'on a vu que sur les 40 dernières années, c'était les actions qui étaient la classe la plus performante. Mais justement, on va challenger tout ça. Et il y aura du public, et le public va donner son avis. Est-ce qu'on aura été convaincu par l'or, par le Bitcoin, par les actions, par les obligations? Vous avez donc sur l'écran qui s'affiche un QR code qui vous permet de demander à participer à l'émission. Et évidemment, si vous ne nous regardez pas, mais vous nous écoutez, vous allez sur le site de BFM Business pour C'est votre argent et vous pourrez vous inscrire. Au sommaire aujourd'hui, les mots de la semaine, c'est évidemment la notation de la France, la question macro. Est-ce qu'on commence à avoir des petits signaux, un peu en Allemagne, un tout petit peu en Chine, de redécollage de l'économie? Donc, est-ce qu'après ce landing ou ce no-landing aux États-Unis, on a le redécollage? Le chiffre de la semaine, c'est le dollar au plus haut, notamment contre l'yen depuis 34 ans. Donc, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est important ou est-ce qu'on s'en fout complètement? Et en deuxième partie de l'émission, bien évidemment, l'impact des chiffres de l'inflation américaine et de la hausse des taux d'intérêt sur la bourse. Est-ce qu'on est dans une correction ou est-ce qu'on va avoir aussi, comme l'économie, un rebond? La question d'argent, c'est selon nos experts, quel est le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine, les actions à acheter ou vendre et le top 3 des gérants. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Elle enseigne l'économie et l'analyse avec application et talent. Anna Souakri, vous êtes professeure affiliée à l'ESCP, c'est mieux que Sciences Po, et chercheur Square Management Research Center. C'est bien ça?
Tout à fait.
Ça va, il n'y a pas de blocage chez vous, non?
Non, ça va, il n'y a pas de blocage.
Tant mieux. C'est un grand spécialiste par sa taille et par son talent des petites valeurs. Louis Defeldt, vous êtes toujours directeur des gestions chez Gay-Lussac Gestion.
Toujours chez Gay-Lussac Gestion.
Pas viré, non, c'est bon.
Ah, ça fait 17 ans.
Là. Ah ouais, donc je m'accroche. Fini, je vous ai accroché là. C'est terminé, voilà, c'est comme moi ici. Quoi. Ils essayent, tout le monde essaye de me dégager, mais ça fait 15 ans ou 16 ans.
Donc fidèle au poste.
C'est une légende vivante de la gestion. Légende, mais vivante. Un modèle pour les jeunes générations, Romain Burnand. Vous savez que je suis fan.
Ben merci Marc, on est très content de vous retrouver et content d'avoir mon petit compliment habituel.
Vous êtes président de Moneta AM, une belle success story. Non mais c'est vrai que vous êtes une référence, je dis ça, c'est pas pour...
Il est...
non.
Ah, c'est clairement une référence.
Oui,
pour nous.
Vous pouvez dire de façon objective, parce que moi il pense que je le flatte à chaque fois.
Ah ben non, c'est grâce à Moneta Microcap lancé en 2003 qu'on a lancé notre premier fonds Microcap chez Gay-Lussac en 2007, donc on est sur vos pas.
C'est un champion, contrairement à moi, c'est un champion de la mauvaise foi. Alors que moi, j'essaye d'être vraiment, de dire vraiment des choses qui sont sensées. Nous ne sommes d'accord sur rien, surtout pas sur l'Allemagne, mais sa présence est toujours un immense plaisir. L'incontournable Emmanuel Le Chip, directeur de l'Observatoire de BFM Business. Vous m'avez manqué, Emmanuel.
Ouais, mais c'est marrant parce que votre introduction est une nouvelle preuve que vous êtes insurpassable en termes de mauvaise foi. Je ne rivaliserai jamais avec vous sur ce terrain-là.
Et pourtant, vous n'êtes pas mauvais.
Bah, quand il faut.
Allez, on passe tout de suite au sujet, évidemment, qui nous occupe depuis des semaines, la notation de la France. La notation, oui, ne m'appelez plus jamais France. C'est vrai qu'en ce moment, franchement, c'est chaud. Hein. La note française est évidemment sous le feu des projecteurs. Il faut dire qu'avec un déficit à 5,5%, des prévisions de déficit à 5,1%, alors qu'on sait que les prévisions de croissance qui nous permettraient d'atteindre ces 5,1% ne seront pas atteintes. Une dette au-dessus de 110%, on est en zone de danger. Est-ce que c'est mérité une dégradation de la note, Emmanuel Le Chypre?
Alors, si vous regardez les considérations habituelles qui poussent les agences de notation à dégrader, on pourrait dire oui. parce que effectivement, historiquement, vous voyez qu'un pays dont l'endettement public a progressé de plus de 10 points de PIB au cours des 5 années précédentes, par exemple, c'est souvent quand même le signe d'une mauvaise gestion des finances publiques et qui fabrique une dégradation. Si on regarde la trajectoire attendue de nos finances publiques, oui, effectivement, la dégradation est quand même méritée, puisque vous avez, et c'est ça, moi, à mon avis, qui est vraiment le plus préoccupant, c'est qu'on a un déficit de nos finances publiques structurelles qui reste extrêmement élevé. Quand on est à 3% du PIB de déficit structurel, qui est, encore une fois, le déficit qui ne dépend absolument pas des fluctuations de la conjoncture, vous êtes quand même là sur un sujet extrêmement grave. Donc oui, c'est justifié. Est-ce que ça va avoir des conséquences très importantes?
C'était la question d'après, mais vous posez les questions aussi.
Non,
mais vous pouvez faire les deux. Vous voulez prendre ma place, peut-être?
Pas du tout.
Non, mais oui, est-ce que ça aura des conséquences, je plaisante, Emmanuel?
Est-ce que ça
a des conséquences, une dégradation? Parce qu'il faut rappeler aux gens qui ne connaissent pas, la dégradation, c'est de passer de 18 à 16, ou de 16 à 15.
Pour les gens,
mais on n'est pas à 11, non, on n'est pas à 8, on n'est pas à 9.
Il y a effectivement un système de notation. En gros, les agences de notation, c'est un peu aux finances publiques ce que le guide Michelin est à la gastronomie, c'est-à-dire que vous notez
et vous connaissez ça.
Et ça, je connais. Et en gros, quand la note baisse dans le Michelin, vous avez moins envie d'aller au resto qui est noté. Et puis, quand la note d'un pays est dégradée, vous avez un peu moins envie de lui prêter aussi. La réalité, c'est ce que on a quand même vu que toutes les dernières campagnes de dégradation avaient eu assez peu d'impact, que les portefeuilles des investisseurs sont quand même assez inerte, hein, et la moitié de la dette française est détenue par l'étranger, ce sont des portefeuilles assez inertes. Et puis, vous disiez effectivement, il y a une vingtaine de notes par agence, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est vrai que là, on est encore sur des niveaux élevés. Pour faire simple, il faudrait qu'on descende encore de 2 ou 3 crans pour que là, ça devienne vraiment critique, qu'il y ait des problèmes, par exemple.
On arrive à 11-12, quoi.
Oui, et qu'on ne puisse plus, par exemple, être intégré dans certains portefeuilles de gestion.
On en est loin, ça.
Et donc, on en est loin. Donc, non, le scénario le plus probable qui nous guette, malheureusement, c'est une espèce de scénario d'asphyxie à l'italienne plutôt qu'une crise brutale à la grecque.
Et c'est dommage. Et c'est dommage parce qu'une crise brutale nous permettrait de prendre des mesures. Une notation, une dégradation, c'est mérité,
Anna Sportry. Alors déjà, je pense pas que ce soit la question, le terme mérité. C'est pas tellement mérité, c'est justifié plutôt. Ouais. Je dirais
mérité.
Plutôt justifié. Alors déjà, faut pas oublier qu'est-ce qu'on dégrade, c'est pas la France. C'est une opinion, donc c'est la dégradation de l'opinion et des perspectives des agences sur effectivement la trajectoire de l'économie française. Et comme Emmanuel l'a dit, la clé c'est quoi? C'est effectivement le fait que on ait un déficit structurel qui soit abyssal, un déficit primaire, on est à peu près entre 3,5 et 4, et déficit structurel. Donc, on est pareil entre 3,5 et 3,4. La différence, donc le déficit structurel, effectivement, c'est quel est l'écart de production par rapport à l'atteinte du niveau de croissance potentielle, qui serait le niveau de croissance optimale, qui permettrait d'utiliser à plein les capacités de production, le travail, capital, etc., sans provoquer une surchauffe de l'économie.
Et juste à expliquer que le déficit primaire, c'est hors prise en compte
des charges d'intérêt de la dette. Et donc là, effectivement, les marchés, de toute façon, mondialement, avaient déjà anticipé. Les chiffres, on ne les sort pas d'hier, c'est de pire en pire, effectivement, sur ces deux composantes depuis plusieurs années. Donc, c'était déjà anticipé. Donc, l'effet va être micro-marginal. Il va juste y avoir, effectivement, quelques achats qui sont, sur des marchés qui sont, en fait, liés à la notation précise. Mais ça va être très marginal parce qu'on ne va pas passer on perd pas trois notes d'un coup, c'est jamais comme ça. Et donc effectivement,
Emmanuel, comment on explique, avant de passer la parole aux gérants, parce que j'aimerais avoir leur avis, comment on explique l'impunité de la France? C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe, c'est ça, c'est-à-dire que on continue à emprunter à 3% avec des chiffres qui sont absolument désastreux, quoi. Et 3%, c'est rien.
Mais malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait une impunité de la France. Oui. Il y a une difficulté des agences de notation.
Non, mais l'impunité par les marchés.
Mais oui, mais l'impunité par les marchés, ils sont aussi peu judicieux dans leur jugement et aussi peu anticipateurs que les agences de notation. Rappelons juste quand même le cas de la Grèce, qui est quand même le cas le plus emblématique de grave crise financière qu'on ait connue en Europe. La vraie crise grecque, elle commence finalement plutôt 2010-2011. Ouais. La première dégradation de la Grèce, c'est 2004. En 2007, avant la crise financière de 2008, l'OCDE, tout le monde, les agences de notation sont plutôt très optimistes sur la Grèce. Et il faut quand même qu'on s'aperçoive que les comptes sont bidons et que le déficit public n'est pas de 4% du PIB, mais plutôt de 10-12 pour arriver à déclencher cette grave crise. Donc c'est plutôt un problème de cécité, j'ai envie de dire, à la fois de la part des marchés comme des agences de notation. Et c'est pas spécialement le cas de la France. Qu'est-ce qui joue en faveur de la France? Vous avez quand même
L'épargne des ménages déjà.
Alors,
parce que quelque part, les gens y pensent.
Qui est très fort. Bah, le patrimoine de l'État. Qui, encore une fois, quand vous faites la différence entre la dette publique
et la garantie de la
patrimoine,
l'euro, le fait que, et puis regardez en Europe, on va nous, je crois, émettre 285 milliards d'euros cette année. L'Italie va émettre plus, mais dans le reste de l'Europe, à cause des, grâce aux pays frugaux, l'offre finalement de dette publique va pas être si abondante que ça. Et comme tout le monde en veut. Bah, finalement, le rapport offre-demande favorable au taux plutôt bas.
Une seconde.
Si je peux compléter. Pas tout à fait. Déjà, c'est pas tellement la cécité sur le marché. C'est en fait à défaut d'autres investissements.
Ouais, il n'y a pas de
c'est
papier.
La liquidité. Là, ce qui joue, c'est parce qu'il y a une liquidité, il y a une forte abondance des bons du trésor sur les marchés, alors que l'Allemagne, on le sait, ne veut pas investir. S'il y avait un changement de manœuvre et que l'Allemagne se mettait à investir et à émettre beaucoup plus de bons de son trésor, clairement, la situation serait totalement différente. Et juste l'autre chose, sur les facteurs, je suis pas d'accord. On est la position extérieure nette de la France, elle est en déficit. L'Allemagne, les Pays-Bas, il y a 5 pays au sein de l'Union européenne qui sont en excédent, ce qui fait qu'au total dans la zone euro, la position extérieure nette, elle est excédentaire à hauteur de à peu près 3,5-3,7% du PIB, mais la France, on est à -25. Position extérieure nette, elle représente à hauteur de -25% du PIB.
Oui.
Donc c'est l'euro qui nous sauve, en fait.
L'euro, évidemment, c'est l'euro et la zone euro qui nous sauve. Parce que, de toute façon, les taux directeurs que l'on regarde aux États-Unis, c'est le taux mondial qui drive. En Europe, c'est l'Allemagne. Et évidemment, la France est complètement corrélée au taux allemand. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pendant la crise,
c'est ça
ce qu'on appelle le spread, vous savez, l'écartement. Bah oui. Parce qu'aujourd'hui, on est à quoi? On est à 2,60 sur le taux 10 ans allemand, on est à 3,10. Donc l'écart entre les deux, c'est 60 points de base. Ouais. Et quand tout à l'heure on parlait de la Grèce, vous vous rappelez, il y avait le fameux Frexit en 2011. Donc au plus haut fin 2011, on est arrivé à 130 points d'écart entre l'Allemagne et la France. Donc voilà, là aujourd'hui, entre 50 et 60,
c'est pour ça que je parlais d'impunité.
Il y a une impunité totale.
Romain, quand vous regardez ça, alors c'est vrai qu'on nous explique tout le temps, à chaque fois que je dis ça, les économistes me disent la gestion d'un ménage, gestion d'une entreprise, c'est pas pareil que la gestion d'un État. Mais quand même, vous qui analysez des entreprises, quand des entreprises présentent des comptes qui sont terribles, bon, on les sanctionne. Là, vous quand vous regardez ça en vous disant, voilà un pays qui gère très mal ses finances publiques, vous, en tant qu'homme de marché, vous n'êtes pas surpris qu'il n'y ait pas de sanctions?
Alors, il y a beaucoup de sociétés qui ont été endettées, un peu comme la France, et qui ont bénéficié de la hausse des prix. Parce que, comme la France, beaucoup de sociétés, alors des gens comme Veolia, des gens comme Unibail, qui ont été endettés et qui sont toujours endettés, sont été endettés très largement à taux fixe. Et donc, la hausse des prix a permis d'alléger le poids de la dette, parce qu'ils ont réussi développer leur capacité de remboursement d'une dette à taux fixe, qui finalement leur a coûté beaucoup moins cher par rapport à l'augmentation de leur pouvoir d'achat, ou c'est plus ou moins le pouvoir d'achat de leurs créanciers qui a baissé. Donc la France, on est aussi un peu dans le même panorama, c'est-à-dire l'inflation, ce qui fait que la dette française par rapport au PIB a été relativement stable sur la période très récente. Mmh. Et voilà, la hausse des prix aide les personnes endettées. Alors après, sur le marché des actions lui-même, les grands indices sont composés de sociétés françaises, mais qui sont très internationales. Ce qui se passe en France a un impact extrêmement limité et pas forcément d'impact sur la structure financière, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont des structures financières, les grandes entreprises et les grandes entreprises moyennes, très saines.
Oui, et ça c'est absolument incroyable. Allez, la question macro de la semaine, c'est l'économie mondiale. On en parle souvent ici. On a parlé beaucoup de ralentissement. On s'est posé la question de savoir si c'était un soft landing, un no landing, un hard landing. Et puis on voit des petits frémissements de pays qui étaient à l'arrêt. L'Allemagne est à l'arrêt. Elle vient de sortir quelques. Alors c'est trop tôt pour se réjouir, mais on sent que ça redémarre un peu. En Chine, on a l'impression qu'on voit un peu le bout du tunnel. Aux États-Unis, même si le chiffre, dernier chiffre de croissance sur le trimestre était assez moyen et a déçu les marchés, l'économie américaine va bien. Donc, est-ce qu'on peut dire que le grand ralentissement, Emmanuel Le Chypre, est déjà terminé?
Ce qu'on peut dire déjà, c'est que y a quand même un frémissement indiscutable par rapport au creux atteint cet automne. Quand vous regardez, alors les États-Unis,
indiscutable pour vous.
Il y a beaucoup de signaux.
Ok.
Il y a beaucoup de signaux. Alors les États-Unis, quand vous regardez ce qu'étaient les perspectives de croissance il y a 4-5 mois et aujourd'hui, moi j'ai rarement vu depuis le temps que je regarde les prévisions une révision aussi spectaculaire de la croissance américaine. Alors en partie liée à l'effort de guerre d'ailleurs, qui explique aussi pourquoi la croissance américaine résiste à la hausse des taux d'intérêt. Donc ça c'est spectaculaire. En France, quand vous regardez tous les indicateurs de conjoncture de l'INSEE, incontestablement, vous voyez que dans tous les secteurs, il y a quand même une petite amélioration sur les carnets de commandes,
même en
sur
France,
les perspectives. D'accord. Ah oui, là je vous parle de la France.
Ouais, ouais.
Donc il y a quand même un socle assez intéressant. Sur l'Allemagne, vous avez raison, on a eu hier tous les chiffres qui concernent notamment la confiance des ménages, les perspectives de consommation des ménages. Et là, on peut se dire qu'il y a un petit frémissement aussi. Donc, oui, la Chine, vous l'avez dit. Ouais. Donc, moi, clairement, effectivement, on peut dire qu'il y a quand même quelques signes de raffermissement de l'activité un peu partout en Europe.
Anna, le landing est terminé et on est reparti pour un redécollage.
Je ne serai pas au niveau mondial, parce que tu as justement dit là, effectivement, tu te situes surtout au niveau européen, mais quand on se situe au niveau mondial, je serais plutôt assez nuancée et il va falloir encore, ce sera pas avant plutôt second semestre 2025 qu'on pourra avoir un
2025.
Un
ouais, mais plutôt à cause des pays émergents
mais l'effet global les pays émergents et sous-développés, enfin comme on dit sous-développés entre guillemets, mais effectivement du fait d'une part quoi le ralentissement de la Chine, effectivement que ce soit FMI, Banque mondiale et autres, on est autour de 4-1 hein, pour les deux prochaines années, ce qui est quand même très faible, et ça a un fort effet d'entraînement notamment sur toutes les pays émergents et l'économie de la zone sud-asiatique qui sont très dépendantes hein, dans leur chaîne de valeur, très fortement intégrées à la Chine.
Oui, mais d'un autre côté, les États-Unis vont bien et l'Europe, ça a l'air de freiner un peu.
Les États-Unis, ça baisse quand même. Hein,
oui, au premier trimestre, mais quand on regarde les autres indicateurs, ils sont assez bons.
Mais même, il y a quand même quand on regarde au global, effectivement, il va y avoir un ralentissement du fait que ça va s'essouffler, les poches de consommation, les poches d'épargne des ménages, etc. aux États-Unis. Mais le problème, c'est vraiment le sous-investissement dans les pays émergents, et notamment là, on va atteindre les prévisions, c'est qu'au niveau mondial, du fait de ce sous-investissement, effectivement, ça va être à peine à la moitié du niveau de ce qu'il était dans la décennie avant le Covid.
Donc vous dites ralentissement de la consommation, ralentissement des investissements, il est trop tôt pour crier victoire.
Parce que le facteur déterminant, c'est vraiment le niveau des investissements, et le niveau des investissements également dans les pays développés, surtout en Europe, il est contraint justement par le manque de consolidation des finances publiques. Et voilà, c'est ce qu'on parlait de déficit structurel, c'est ça.
C'est
qu'il y a énormément de pays qui sont endettés en situation de déficit structurel.
Regardez les prévisions du FMI,
Emmanuel. Manœuvre.
Par rapport à il y a 6 mois, il y a 6 mois, le FMI disait ralentissement en 2024 par rapport en 2023. avec plutôt un point en plus pour les émergents et un point en moins. Et là, aujourd'hui, c'est plus de ralentissement. C'est-à-dire qu'ils ont révisé en hausse 2023 et ils disent on sera à 3-2% de croissance dans le monde en 2024 comme en 2023, avec une révision plus spectaculaire.
Donc on peut dire qu'on a
pour la Banque mondiale, ils sont plutôt 2-4, 2-6.
Ouais, enfin, la Banque mondiale, ils continuent à penser que l'inflation, c'est un problème. Donc,
quelles sont les remontées que vous avez dans les des entreprises, Romain?
Ils sont variés, mais les entreprises sont quand même prêtes à investir.
Ah oui.
On voit, vous avez vu hier Meta qui a annoncé, cette nuit, Meta qui a annoncé une augmentation de ses investissements,
dans l'IA et la réalité virtuelle.
Voilà, la vertu virtuelle.
35 à 40 milliards. Voilà. Alors, c'est plus que les États.
Hein. Voilà, son cours a baissé, parce que les gens disent c'est pas sûr que ça va gagner. Et ça montre aussi que les marchés boursiers visent plutôt le court terme que le moyen long terme. Mais voilà, on a par exemple, on cite de la France, mais les carnets de commandes de Eiffage, de Vinci, de Bouygues sont à des niveaux très élevés.
Ah oui.
Grâce à la dépense, en partie la dépense publique des collectivités locales, mais c'est engrangé, ça va continuer à s'écouler sur. On est passé de record en record d'année en année. On voit des carnets de commandes pour tous les sujets de décarbonation qui sont très importants. On voit des gens comme, alors plutôt au niveau global, comme Technip Energy ou comme ces acteurs qui avaient l'habitude de faire des raffineries ou qui aujourd'hui rentrent aussi dans des données comme la capture de carbone et compagnie. Là, les commandes sont bonnes. Donc, il y a quand même des facteurs de résistance et
de résistance ou de redémarrage?
D'activité, pas de redémarrage parce que ces activités ne sont pas arrêtées, mais de poursuite de l'activité. En revanche, dans les services, là, parfois, on a notamment les services informatiques, le début d'année est plutôt mou.
Louis, qu'est-ce que vous avez comme remontée, vous, des sociétés?
Plutôt des remontées que le point bas, ça y est, il est là, où il était juste T4 ou premier trimestre de cette année. Parce que là, ce qui est très compliqué, c'est que beaucoup s'interrogent en disant mais pourquoi les indices large cap sont au plus haut alors que l'économie locale ralentissait.
Ouais.
Évidemment, nous qui sommes dans les petites sociétés, on va vraiment chercher, un peu comme Romain et ses équipes, les pépites du terroir local, ça fait plus d'un an qu'elles souffrent. Quand on regarde une société comme Pharmagest, par exemple, qui vend des logiciels à des pharmaciens, les pharmaciens, depuis un an, ils ont fortement souffert de la remontée des taux d'intérêt, donc ils ont décalé les investissements. Il y a beaucoup de sociétés aussi industrielles comme Precia, qu'on a vu récemment, qui est le leader français dans le pesage industriel. Ils ont dit, là, le T1, le carnet de commandes n'était pas génial, parce qu'il y avait encore les effets de base très difficiles de l'année dernière. Les néons dit, en avril, ça repart. Parce que ça y est, ça fait à peu près un an que les gens sont au courant que les taux d'intérêt sont élevés, donc ils ont décalé les investissements, et l'économie, elle a commencé à ralentir à partir du deuxième trimestre de l'année dernière. Donc là, on arrive sur des effets de base positifs. Donc là, le trimestre devrait repartir en légère croissance avec une accélération au troisième et quatrième trimestre.
C'est des bonnes nouvelles que vous nous donnez là.
Non, c'est assez positif parce que la plupart des sociétés le disent, qu'elles soient aussi dans la consommation. Regardez, des sociétés comme Steph ou Idée Logistique nous ont encore dit que le premier trimestre est encore mou, avec une accélération de la consommation française qui devrait arriver.
Allez, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais quand même avoir un mot de votre part sur le chiffre de la semaine qui pour moi était le dollar. J'ai été frappé de voir le dollar contre yen au plus haut depuis 34 ans. Alors certes, contre l'euro, il a un peu rebondi, Anna. Le dollar, c'est vraiment la valeur refuge ou...
Alors, le dollar, effectivement, ça a toujours été le privilège exorbitant du dollar. Il sera toujours. Parce qu'on a beau dire, oui, les BRICS et tout, qui veulent effectivement créer leur monnaie, etc.
Et qui achètent de l'or.
Voilà, exactement. Donc, il y a plusieurs facteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a quasiment pas d'alternative au dollar. On le voit, c'est à peu près 70%. Des transactions internationales et commerciales et monétaires au niveau mondial, un peu plus de 60% des réserves. Effectivement, il y a l'euro qui commence à monter, mais ça reste quand même marginal. On est à peine à 30%.
Donc.
Et les BRICS, on n'est pas prêt de voir une monnaie commune. Effectivement, ils pourraient avoir cette puissance parce que là, les tensions géopolitiques, les oppositions notamment entre la Chine et l'Inde. Et donc les facteurs qui jouent sur la valeur du dollar, effectivement, c'est l'offre et la demande.
Et les taux d'intérêt.
Donc la demande, il reste très fort, mais sur les prochaines années, on va quand même, je pense, observer, on voit déjà le début d'une tendance à de ce que de plus en plus de pays achète de l'or. Oui, achète de plus en plus d'or, donc en fait, qui est la seule, entre guillemets, autre alternative, si je puis dire, au dollar.
Moi, je suis en une seconde.
Je suis assez méfiant sur cette idée. De... Moi, je pense que les États-Unis, c'est quand même. Enfin, il y avait plein de raisons pour lesquelles le dollar est la monnaie du monde. Et il y en a une supplémentaire depuis quelques années qui est majeure. C'est la puissance énergétique
et militaire.
Alors militaire, oui, mais militaire, ça a toujours été.
Ouais, mais
militaire,
en fait,
ça a toujours été l'innovation,
en force, quoi.
L'innovation, les grands marchés de capitaux. Vous avez la démographie, qui est un facteur qu'on oublie souvent, qui est majeur. Ah. Elle a une démographie favorable.
Attention, cette semaine, on a annoncé quand même que leur taux de fécondité était au plus bas. On est redescend.
Oui, mais
ils sont quand même à 1,60. Hein.
Ouais, mais
non, mais c'est très bas. Hein.
Oui, mais sauf que c'est mieux que ce que vous avez partout ailleurs. Et vous avez une immigration qui est quand même forte contributrice. Voilà. Et puis le dernier élément, l'énergie, c'est très important. Je vous donne juste un chiffre, parce qu'on ne l'a pas forcément en tête. Songez que les États-Unis ont produit l'an dernier plus de pétrole qu'aucun pays n'en a jamais produit, y compris l'Arabie Saoudite.
Et largement plus que leur besoin, alors qu'il y a 20 ans, ils produisaient un tiers de leurs besoins.
Voilà, vous voyez que vous avez tout, et il n'y a plus cette vulnérabilité-là. Et donc, moi, je ne vois pas comment le dollar pourrait perdre de sa superbe...
On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler de la bourse. Est-ce qu'elle est mûre pour une correction? Est-ce qu'on va avoir un rebond? La question d'argent, le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre?
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission avec Emmanuel Lechypre, avec Romain Burnand, avec Louis De Fels, avec Anna Souhatri pour parler de la bourse, pour parler des placements de la semaine, pour parler du top ou du flop de la semaine, du top 3 des gérants, des actions à acheter ou vendre. On commence tout de suite par les marchés. Bon, je sais pas, c'est à la fois mou, mais à la fois quand on regarde la perte depuis le début d'année, c'est quand même pas mal. Donc je sais plus quoi penser. Bon, cette semaine, on a pris un petit coup sur la tête, mais léger, quoi. À chaque fois, on baisse, mais il se passe rien de catastrophique. Là, la surprise, la mauvaise surprise, c'était les chiffres mous de la croissance américaine avec des chiffres forts de l'inflation américaine. Ça n'a pas plu au marché, mais il résiste bien. Avant de passer la parole au gérant, Emmanuel, ça vous a surpris la résistance de l'inflation aux États-Unis? Parce qu'elle était quand même largement supérieure aux anticipations. Elle a rebondi alors qu'on était tous en train de dire, moi y compris, qu'on allait baisser graduellement.
Vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire plus de croissance et moins d'inflation, c'est compliqué.
Mais là, on a moins de croissance et plus d'inflation.
On a moins de croissance, oui, beurre, parce que le chiffre, honnêtement, le chiffre du premier trimestre,
il est bien.
C'est-à-dire que je pense pas que ça reflète un arrêt de la trajectoire de croissance. Donc oui, forcément, si vous avez un peu plus de croissance, vous avez aussi un peu plus d'inflation.
Mais quand même, avec Jean-Marc Daniel qui dit il n'y a pas d'inflation, nous qui disions ici, alors c'est vrai pour l'Europe. Hein,
non mais on a toujours pris soin de distinguer le cas américain du cas européen.
C'est vrai. Donc aujourd'hui, les marchés ont raison de se poser des questions sur la baisse de l'inflation aux États-Unis.
Et puis ils ont surtout des raisons de se poser des questions sur la baisse des taux aux États-Unis aussi.
Ah oui, baisse des taux aux États-Unis. Oui, Anna, vous pariez sur une baisse des taux aux États-Unis en 2024 ou pas?
Peut-être ça sera plutôt en deuxième partie de 2024.
Oui, ça c'est sûr, mais est-ce que vous pensez qu'il y en aura quand même une en 2024?
C'est probable, mais ça va dépendre de l'action de la Fed, en fait. Et est-ce que la Fed, surtout, arrête de racheter, notamment, des bons du Trésor? Si elle arrête, effectivement, si elle commence à se délester dans son bilan de tout... C'est bon du trésor qu'elle avait accumulé, oui. Mais effectivement, je suis d'accord avec Emmanuel, il y a une grosse différence entre ce qui se passe aux États-Unis et en Europe.
Évidemment. Louis De Fels, la bourse, elle est trop haute, elle n'est pas haute?
Non, ça ne me semble pas trop. Est-ce que là, le marché, en effet, price plus que 34 BP de baisse de taux? Je vous rappelle, en début d'année, c'était 6 baisses de taux.
Anticipé.
Ouais. Mais à la limite, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de baisse de taux. Ça veut dire, comme disait très justement Emmanuel, c'est que la croissance est là, et donc la croissance des bénéfices par action va arriver, parce qu'il faut pas oublier que la bourse, c'est quand même la croissance future des bénéfices par action. Donc ce qui est très intéressant, c'est que normalement on devrait avoir une accélération à la croissance des bénéfices, parce qu'il faut se rappeler que depuis octobre dernier, les marchés sont remontés que sur le re-rating, sur les perspectives, parce que quand on regarde ce qu'on appelle le P PE ratio, vous savez, le price earning ratio, mais elle s'est remontée de 11 à 13 fois. Donc ça s'est fait que, en fait, c'est la valorisation du résultat net de l'entreprise. Okay. Si on fait une société 15 fois, c'est-à-dire qu'elle se paye 15 fois le résultat net. Et donc là, il y a eu un re-rating. On est passé pour le CAC 40 ou en Europe de 11 fois à 13 fois. Et ça s'est fait que donc, sur la progression du multiple et pas sur les bénéfices par action. Donc là, on s'attend clairement que les bénéfices par action vont rebondir. Clairement, on attend aux États-Unis 9% cette année et 14% l'année prochaine. En Europe, un peu moins, on est à 4% cette année et 10% l'année prochaine. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le fait qu'on ne baisse pas les taux, ça donne ce qu'on appelle un peu le Fed put. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si l'économie devrait se dégrader, là, dans ces cas-là, Jerome Powell dirait « je baisse les taux », ça rassurerait les marchés.
Donc vous dites, vous êtes à contrario, vous dites le fait que l'inflation soit relativement élevée et que les taux restent élevés, c'est pas une mauvaise
chose. Non, c'est pas forcément une nouvelle, parce que c'est pour une bonne raison. C'est parce que l'économie repart et les sociétés... Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que voilà, on passe d'une économie de good news et good news. Avant, rappelez-vous, c'est quand il y avait une mauvaise nouvelle, le marché montait. Donc là, c'est beaucoup plus sain. Et surtout, il commence à avoir une décorrélation entre les taux et le marché. Donc c'est ça ce qui est plutôt...
Vous êtes super optimiste aujourd'hui.
Oui, on est assez optimiste.
Vous êtes arrivé, je ne sais pas si vous avez fumé dans le couloir, mais...
Non, mais vous connaissez, on est toujours assez optimiste. Et surtout, il y a aussi, cerise sur le gâteau, il y a le rebond des opérations boursières, ce qu'on appelle les OPA, rien que cette semaine, il y en a quasiment eu trois, rien que pour cette semaine.
Oui, alors ça, je m'excuse, mais ça, ce n'est pas une super bonne nouvelle.
Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Donc je pense
c'est une bonne nouvelle pour quand on aura la battle pour le private equity. Non, mais c'est peut-être une bonne nouvelle pour le private equity, mais franchement, de voir des belles sociétés partir de bourse,
c'est pour ça qu'on avec Romain notamment très souvent vous pouvez compter que ça soit Moneta ou Gay-Lussac Gestion pour protéger les porteurs de parts. Je me rappelle Environnement et ça, on était quasiment les deux seuls porteurs à avoir empêché l'OPA et grâce à notre bataille on a eu quoi jusqu'à 25 ou 30% de relèvement de prix.
Oui, mais la boîte est sortie quand même.
Oui, mais au moins les gens qui nous ont fait confiance ont été faits à juste prix.
De voir quand même la bourse se réduire un peu, pas comme une peau de chagrin, mais voir quand même des belles sociétés sortir. Bon, alors que celles qui rentrent ne sont pas forcément top, ça ne vous fait pas mal au cœur ?
Bah, ça fait longtemps qu'on répond, nous, qu'on est 16 analystes chez Moneta, on travaille beaucoup et on n'étudie qu'une petite partie des valeurs qu'on peut étudier en Europe. Donc, vous voyez, le gisement est tellement gros et on est des petits acteurs, on reste agile. C'est pas le sujet pour nous.
Sujet.
Pas pour nous, pour trouver des performances.
Mais
des
c'est quand même, la bourse, elle vit.
Oui, mais.
C'est comme un pays.
Mais il y a des centaines de sociétés cotées en Europe.
Que...
Ah ben, alors après, sur la. Je veux dire, ça veut dire si les sociétés sont pas cotées, ça veut pas dire qu'elles n'existent pas.
Hein. Non, je comprends.
Donc au niveau de l'économie, ça. Donc moi, je suis pas inquiet sur ça parce que je suis sûr que de toute façon, il y aura besoin de la bourse pour faire des introductions. Les fonds de private equity un jour auront. Aujourd'hui, ils peuvent pas vendre parce qu'ils ont des exigences. Ouais. Qui sont supérieurs à ce que la bourse est prête à leur offrir. Et
vous n'avez pas du tout d'inquiétude là-dessus ? Parce que moi, je vous avoue que de temps en temps, je me pose la question. C'est-à-dire, je me dis, je vois sortir, j'ai l'impression que, bon, voilà, ça va que dans un sens, quoi. C'est-à-dire que les belles boîtes sortent, et je me dis, mince, encore une sortie, bah, c'est dommage, quoi. Voilà,
oui, alors il y a beaucoup de belles boîtes qui existent et qui prospèrent.
Non, vous avez raison. Vous dites, non, mais c'est intéressant. Oui, hein, mais moi, je cherche à être rassuré.
Oui, voilà, nous, en tant qu'investisseurs, on a un gisement de société en Europe. Que nous n'exploitons que de manière très 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 limitée.
La bonne nouvelle, je partage assez, c'est que depuis deux ans, il y a eu les belles verts qui sont partis et les IPO, les introductions en bourse, c'était catastrophique. Là, on voit qu'il y a eu des très belles sociétés, Galderma en Suisse qui a très très bien marché. Il y a eu une société de software dont j'ai oublié le nom qui a très bien marché. Et vous avez la société Puch aussi qui est quand même un grand leader dans son domaine qui serait retournée en bourse. Donc voilà, ça tourne. Donc on peut espérer.
Ça tourne. Voilà. Vous êtes là, vous.
Si l'économie s'améliore, ça va revenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les sociétés se bidaient les
actions. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je sens que vous voulez dire quelque chose.
Non, c'est juste que je partage le fait que ce soit un renouvellement plutôt sain et qu'en fait, c'est un peu une forme de destruction créatrice, c'est-à-dire que la bourse croit et enfin. Va avoir d'autant plus confiance et croire et vouloir miser sur des industries, enfin sur des valeurs qu'elles estiment dans les activités d'avenir. Effectivement, hein, il y avait en bourse, sans doute, on pourrait trouver il y a plusieurs années encore des fabricants de fer à cheval ou ce genre de choses. Voilà, ça se renouvelle, ça s'adapte. Donc je trouve que c'est plutôt un bon signal de renouvellement sain.
Le niveau, je sais que vous détestez quand je vous pose la question, mais je vous la pose quand même. Le niveau des marchés.
Aujourd'hui, en fait,
et le niveau des taux d'intérêt, bon, vous le regardez, ça, évidemment.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les résultats des sociétés sont bons, ils sont solides. Même si la croissance et des chiffres d'affaires n'est pas toujours exceptionnel, pour les effets de base en partie de la cassité Louis, mais les résultats sont bons, les sociétés sont souvent peu endettées, voire parfois à trésorerie positive, celles qui sont endettées à long terme et il n'y en a pas tant que ça. On voit bien le résultat des banques européennes, il y a très peu de pertes sur crédit. Donc on est vraiment dans un environnement où, même s'il y a eu un ralentissement de la croissance à certains moments, il n'y a pas de panique. C'est sain au niveau des grandes entreprises et des entreprises moyennes cotées.
C'est important, ça.
Voilà. Alors après, peut-être au niveau de très petites entreprises qui ont des difficultés de financement, au niveau de start-up qui étaient financées par des venture capitalistes qui étaient peut-être à un moment trop généreux et qui sont retirés aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais au niveau global, des sociétés qui sont cotées, il y a très peu de faillites. Alors bien sûr, quand il y en a, on en entend parler, Casino, on voit Atos avec des difficultés.
Orpea.
Orpea. Mais c'est pas la foule. C'est pas non plus des sociétés, c'est des sociétés qui étaient déjà... Enfin voilà. Donc il n'y a pas d'énormes surprises de ce côté-là. Et la preuve, c'est que les provisions des banques sur mauvaises créances sont restées à niveau très bas toutes ces dernières années, avant le Covid, pendant le Covid et après le Covid, alors que beaucoup de gens disaient bah, après le Covid, vous allez voir, l'économie va redémarrer, les gens n'auront plus le fonds de roulement pour refinancer la croissance.
Mais
ça s'est pas vu.
Malgré ça, les actions bancaires, c'est pas terrible pour l'instant.
Au niveau des cours, alors c'est pas mauvais en Europe, c'est moins bon en France, parce qu'en France, elles pâtissent à court terme de la hausse des taux. Ouais. Elles aimeraient bien que les taux courts baissent, que la courbe des taux se repentifie. Mais au niveau européen, les banques sont reparties hein, en termes de boursiers. Hein, alors elles sont reparties de leurs cendres, elles sont très loin de leur plus historique, mais elles ont eu des très bonnes performances.
Emmanuel ?
Non, moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, si vous prenez tous les grands agrégats qui racontent l'économie mondiale, vous êtes vraiment sur une forme apparente, j'ai envie de dire, de retour à la normale par rapport à la période avant Covid. Ce qui ne veut pas dire qu'on revient au monde d'avant. Hein, il y a énormément de mutations qui se sont produites. Mais si vous prenez les chiffres de croissance, par exemple, vous revenez sur des chiffres de croissance de moyenne longue période. Si vous prenez l'inflation, on revient sur des rythmes de moyenne longue période. Si on reprend l'emploi, par exemple, regardez l'enquête qui est sortie en France sur les intentions d'embauche, on retrouve les niveaux de 2019. Ouais. Si vous prenez les défaillances d'entreprises...
Vous dites c'est retour à la normale. Bah,
si, sur, les sur les marchés, pareil. Oui, mais ce qui ne veut pas dire que le monde n'a pas changé. Hein. Mais il y a plein de secteurs dans lesquels l'activité revient au niveau d'avant Covid. Je pense au tourisme cette année, par exemple. Et donc, on voit bien que les défaillances, on va retrouver le rythme de 50, 55 000, qui est la respiration habituelle de l'économie, de l'économie française. Et donc, on retrouve un petit peu les lois de la gravité qu'on connaissait avant.
Ouais. Romain, j'ai une question à vous poser. Le grand phénomène là, de ces grosses boîtes technologiques américaines qui annoncent des dividendes maintenant. On a eu l'annonce par Alphabet, donc la maison mère de Google, qui a dit qu'elle allait verser un dividende. C'est un game changer, ça change la donne quand même. On a eu ça avec Facebook déjà une fois. Après, elles ont énormément de cash, elles en investissent beaucoup, mais elles en ont beaucoup. Est-ce que ça change la nature de ces entreprises, de ces 7 magnifiques ou autres ?
Alors, je suis pas sûr que ça change la nature, parce que de toute façon, ces sociétés faisaient beaucoup de rachats d'actions, ce qui est une forme de dividende, puisqu'en fait, elles rendaient du capital au marché.
Donc, c'est pas nouveau, c'est simplement une évolution.
C'est une évolution de leur manière de faire et de.
C'est une forme d'embourgeoisement, quand même.
Oui, c'est ça. C'était pour ça que j'en parlais.
L'établissement.
C'est-à-dire, est-ce qu'elles deviennent pas, elles aussi, Emmanuel parlait d'un retour à la normale. Est-ce que ça ne devient pas des entreprises comme les autres ?
Alors peut-être, mais alors énormes, mais pas comme les autres. Mais le sujet, c'est plutôt que les sociétés, justement, n'ont pas besoin du marché pour se financer aujourd'hui. C'est pour ça que le marché est relativement insensible à ce qui peut se passer sur les taux d'intérêt. Parce que, vous voyez, on parle il y a peu d'introductions en bourse, même si, oui, on a cité quelques-unes qui étaient revenues. Il y a très peu d'augmentation de capital, parce que les sociétés, en général, les grandes, ou même petites, les petites et moyennes, n'en ont pas. Elles cherchent plutôt des cibles de croissance externe. Donc, on a des dividendes, elles ont des rachats d'actions. Donc le marché, il est un peu en vase clos. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin des investisseurs pour que le capital se retourne, se renouvelle. Et, vous voyez, dans une période de crise, vous avez des gens qui sont acculés à faire des augmentations de capital à prix cassé. Et là, les cours chutent et compagnie. Aujourd'hui, on est dans un environnement, je dirais, normal. Alors après, on a parlé des finances publiques, on a parlé tous les problèmes du monde, les problèmes, pas encore, mais on pourrait en parler. Mais l'environnement des entreprises aujourd'hui et du marché, c'est qu'on est en vase clos. Les entreprises n'ont en aient pas forcément besoin d'argent de la part de leurs actionnaires. Elles n'ont pas besoin de lever beaucoup de dettes. Et quand elles en doivent l'enlever, elles le lèvent relativement facilement. Je parle encore des moyennes et des grandes. Et donc,
donc c'est plutôt ça.
Ça montre bien que dans l'équilibre épargne-investissement au niveau mondial, pour nous ramener à notre question, c'est pourquoi il y a autant de capitaux qui vont, notamment sur les dettes publiques, quand on voit que...
Il n'y a pas d'argent.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
C'est très intéressant.
Bah, oui. Louis de Fels, très rapidement, on va passer au placement de la semaine. Vraiment quelques mots parce qu'on est très en retard. C'est quoi le placement de la semaine pour vous? Attendez, je crois que vous allez me dire les petites valeurs.
Toujours les actions, ça y est, on est au début.
Les petites valeurs, ou pas? Ça fait 5 ans qu'on attend ça,
ouais,
pas vous.
C'est vrai qu'on s'est tous un peu trompés, mais normalement, le point bas des bénéfices, c'est là. C'était le T1. Normalement, une accélération des bénéfices par action. Donc ça y est, on y va. Là. Pour la dernière fois, je vais me tromper peut-être, mais je le dis.
Romain, le placement de la semaine pour vous?
En termes de classe d'actifs?
Ouais, classe d'actifs, ouais.
Bon, moi, je connais que les actions, donc j'aurais du mal à vous parler d'autre chose.
Si quelqu'un vient en vous disant, écoute, moi, j'ai de l'argent à placer, vous lui dites, vraiment, va
sur. Bah non, moi, je renvoie sur Marc Fiorentino, hein, je suis pas idiot.
Allez, on va passer tout de suite au top ou au flop de la semaine, l'événement, la personnalité ou l'institution qui fait un top ou un flop cette semaine. Anna, c'est quoi votre top ou flop de la semaine?
Bon, j'en ai deux, mais alors le top, pour voir quand même l'aspect optimiste, c'est un travail très documenté, vraiment, qui a fait un bel effort de méthodologie du FMI pour mettre au point un indice composite de preparedness, pas trop comment le traduire, des économies à l'intelligence artificielle. Non. Et donc, quels pourraient être les gains. Et c'est plutôt optimiste parce que ça donne des pistes de comment on peut faire pour maximiser effectivement les effets de l'intelligence artificielle pour stimuler la croissance, la productivité et autres. Et donc il y a 5 grands facteurs. Hein. Bon, on va pas. Voilà,
non,
je renvoie pas les auditeurs.
Non, c'est vraiment rapide.
Mais en tout cas, c'est plutôt optimiste et on estime qu'on pourrait au niveau mondial avoir entre 0,8 et 1 point de gain de productivité. Et très rapidement, le flop, c'est en France la Cour d'État. Qui a refusé effectivement de limiter les indemnités de licenciement pour les traders, ce qui pour moi est un flop et un signal très négatif effectivement d'attrait pour la France, et une fois encore des rigidités qui restent beaucoup trop fortes sur le marché du travail français par rapport aux autres économies.
On vous a entendu. Le top ou le flop?
Moi, le flop de la semaine, c'était Kering et surtout le consommateur chinois. Donc, c'est vrai que Kering a souffert à moins 10% de croissance organique et notamment la marque phare Gucci qui est à moins 20. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu des très belles publications parallèles aussi de Hermès et Moncler qui ont été au-dessus des attentes, notamment boostées par le nouvel an chinois. Mais en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que juste après le nouvel an chinois, on pensait que ça y est, que le consommateur chinois était là, et finalement derrière ça suit pas. Ils ont pas voulu donner d'annonce en avril. Rémy Cointreau, pareil, qui a publié ce vendredi matin des très bons chiffres. Pareil, c'était lié au surstockage pour le nouvel an chinois et ça redescend derrière. Donc c'est un peu mon flop de la semaine.
Mais est-ce qu'on peut pas dire que Kering c'est pas LVMH et que Pinot c'est pas Arnaud, non?
Non, ça c'est évident. C'est vrai qu'il y a un vrai stock picking à faire. C'est vrai qu'Hermès est très largement au-dessus des autres. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'était plus le consommateur chinois qui est pas encore.
Ça va être intéressant quand même de regarder la réaction de Kering là, parce qu'il y a quand même une prise de conscience sur la nécessité de monter en gamme chez Gucci.
Je sais pas s'ils ont la capacité de réagir.
Justement, ils promettent des premiers résultats pour la fin de l'année. Ça va être intéressant de voir s'ils réussissent le défi ou pas.
Est-ce qu'ils vont
Romain, le top ou le flop de la semaine pour vous?
Moi, je fais un top. Je parle d'une société qui se transforme, qui a bien réussi sa transformation, qui continue, qui était comme la SNCF, une association plus ancienne de la SNCF, c'est créée au XVIIe siècle. C'est Saint-Gobain.
Ah ouais.
Saint-Gobain, qui aurait pensé que dans un marché européen avec la nouvelle construction neuve en baisse de 10%, Saint-Gobain fasse des marches supérieures.
Ils se sont réinventés
en 5 ans. On parle des sociétés qui vont bien. Saint-Gobain aurait pu aller très mal. Aujourd'hui, c'est une société qui est sur une très belle trajectoire. Elle suit des exemples français comme Stellantis et souvent des exemples dans l'industrie comme Airbus, bien sûr.
Et alors, justement, c'est quoi la clé de leur réussite? C'est-à-dire, c'est un homme, c'est un manager?
Ouais, je pense que c'est une maturité, c'est une transformation. Ils ont fait bouger, ils ont voulu être agiles, ils ont désinvesti pour réinvestir, ils se sont développés notamment dans des pays à forte croissance de démographique. On parlait des États-Unis, mais aussi au Canada, ils ont investi. En Australie, ils sont aussi en train d'investir de manière importante en Inde. Ils préparent des métiers de spécialité. Bref, ils font ce qu'ils magnifique. Auraient dû faire depuis 20 ans, mais ils le font depuis 6 ou 7 ans.
Un vrai top.
Effectivement,
top.
C'est que
non,
c'est
on n'a pas le temps. Nouvelle, Anna, ouais. Anna.
On n'a pas le temps.
C'est top ou flop. C'est mon ancienne boîte, alors on peut ajouter la culture d'entreprise. Et puis le marché de sur les matériaux, la rénovation, ils sont devenus champions. Moi, le top, et ben ça répond aussi à la question de pas d'inquiétude sur la situation de la France, etc. C'est AT Kearney qui a sorti son classement maintenant traditionnel sur l'attractivité des grands pays. Et ça fait 4 ans que la France est 6e parmi les pays qui comptent dans le monde. Donc c'est plutôt une performance assez solide.
Et ça,
ce qui peut contribuer à rassurer sur l'avenir de l'économie française.
Ah ouais, non, mais ça m'intéresse, ça, ce que vous dites. Donc, alors qu'on entend tout le temps qu'on descend dans les classements d'attractivité.
Alors, non. Ah non, pas l'attractivité. Non. Ça confirme qu'on a une base.
Bon, mais ça, assez solide. C'est la journée des bonnes nouvelles, là. Ça avait été sympa. Allez, on passe tout de suite au top 3 des gérants. Bon, les performances de façon globale ont baissé, hein. Bon, évidemment, avec la baisse de la bourse. Pascal Sévita. En premier avec 7,9%, Pierre Chang avec 7,5%, William Higgins avec 5,8%. Et maintenant, on passe au moment que vous attendez tous et je vais avoir besoin d'une musique qui fait peur. Louis Defay, je vais vous lire votre portefeuille. Vous allez me dire, les yeux dans les yeux, les Français vous regardent. Si on garde ou on garde pas. Samse.
Oui, on garde.
Veto Quinol.
On peut vendre, allez.
Pourquoi ?
Parce que là, il y a un effet de base, c'est compliqué sur le premier trimestre et on va préférer Virbac, son grand frère.
On va en parler. Roberté.
On garde.
Et Quoissance.
Aussi, on a parlé tout à l'heure, c'est l'ex-Pharmagest qui valait beaucoup mieux.
Argan.
Évidemment.
Évidemment.
Oui, ça y est, ils ont fait le grand son de capital de 150 millions, ils vont pas dégrader, c'est ce qu'on attendait. Il faut clairement un achat à ces prix-là.
Infotel.
Également.
On garde.
On garde, oui.
Neurone.
Bien sûr, ça, toujours. Avis.
Avis.
Ah oui, neurone, avis. Monsieur de Chamard, oui, avis.
Vous dites ça parce qu'il a un nœud papillon.
Exactement.
OB.
OB, ça y est, pareil, premier trimestre qui était encore dernier compliqué, ça va repartir. Donc oui, OB a été salué avec une belle...
Vous aimez bien le secteur, hein, vous avez info,
peut-être neurone, un peu trop de OB, SM, système, un peu de...
C'est quoi comme secteur
Wilson, c'est le système
c'est
de
l'IT, quoi.
De
l'IT services.
Système service informatique, digital. OB, donc on garde, à système.
Également, ouais, dans le nucléaire, très bien. Ouais.
Precia, donc vous en parliez tout à l'heure,
voilà,
belle boîte.
Ça y est, belle boîte, c'est un bon moyen de jouer aussi l'Inde. Donc,
Wavestone.
Pareil, dans le conseil digital.
Qu'est-ce qu'on achète? Oui, de fait, je vous regarde.
Voilà, je vous ai écouté, je vais me diversifier pour la première fois. J'allais en Allemagne, on en parlait tout à l'heure dans l'émission. Clairement, l'Allemagne, après 2 ans très difficiles, ça va aller mieux. C'est un peu notre choix chez Gussac Gestion. Et donc, je vous ai pris une petite pépite du terroir allemand qui s'appelle Einhell. Einhell, c'est le Black & Decker allemand, le leader donc allemand et même maintenant européen.
Vous avez réveillé Emmanuel. Hein,
voilà, Black pour le Decker. Bricolage, pour le jardinage. C'est génial, ils sont très, très innovants. Et en fait, ils ont que des batteries électriques sans fil. Donc, tout est sans fil. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. C'est vraiment très, très bien fait. Donc,
vous avez testé le
produit? Ouais, non, malheureusement.
Bah alors, testé. Vous investissez, vous ne testez pas le produit?
Ouais, c'est vrai qu'on...
c'est incroyable, ça.
Je suis pas bricoleur. Mais faudrait s'y
c'est
mettre.
Pas le problème, vous faites un trou quoi.
Oui, je peux voir. Un trou. Mais voilà, l'année 2023, comme beaucoup en France et en Allemagne, a subi des déstockages, une consommation morose. Et là, ça y est, les déstockages sont plus bas. Vous savez, donc ils vendent une grande partie de leur chiffre d'affaires donc chez les Castorama, Leroy Merlin allemand. Et donc, là, ça y est, ça va repartir. Ces sociétés qui sont vraiment très très peu chères, c'est que 10 fois le résultat, donc le PE, on en parlait tout à l'heure.
Et il y a de la croissance.
Il y a de la croissance, il y a 15% de retour sur capital employé, des free cash flow de plus de 10% quand on le rapporte à la valeur d'entreprise.
Bon, en tout cas,
donc on recommande fortement.
On va vous suivre, mais tant que vous ne l'aurez pas testé, moi je ne le mets pas en portefeuille. Romain Burnand, la France vous regarde. J'essaye de faire monter un peu la pression. Alten.
Alors j'ai tout gardé.
Non, mais on va.
Mais on va les passer un à un, mais je vais tout garder parce qu'elles ont des qualités que j'aime bien dans les sociétés et c'est relativement équilibré. Et c'est le point commun, c'est qu'elles ont un track record qui est long, c'est le cas d'Alten. Elles ont des structures financières en général qui sont solides et elles ont une dynamique de résultat qui peut être variable. Mais dans tous les cas, une valorisation qui est faible.
Donc, mais quand on regarde, par exemple, certaines lignes, vous jouez beaucoup le management, hein, parce que vous avez du Alten, vous avez du Stellantis, vous avez du Vivendi.
La même réaction.
On joue le management quand même.
Sur Vivendi, on joue le split.
Ouais.
Hein, on a beaucoup de holdings qui sont extrêmement décotés en bourse. C'est un signe que la value n'est pas du tout à la mode. Les holdings n'intéressent personne. Vivendi fait partie de ces holdings et la société a décidé de se splitter en 4 sociétés qui deviennent opérationnelles, puisqu'il y aura d'un côté la base, de l'autre côté Vivendi.
Vous avez du BNP, on garde ?
BNP, bonne trajectoire de résultats, valorisation très dépréciée, et société traditionnelle qui a une capacité à se développer de manière importante, surtout un jour si on a l'union des marchés de capitaux européens.
Ouais, on peut toujours rêver.
On peut toujours rêver, mais c'est une option.
Téléperformance.
À téléperformance, c'est un drag dans notre performance, si ouais. je peux dire. Le marché l'a complètement lâché. On est contre l'intelligence artificielle. Enfin, vous voyez, on a tous les vents contraires. Sauf que la société a un très bon track record, a su régulièrement se réinventer. On lui fait confiance pour le faire à l'avenir.
Technip Énergie.
Technip Énergie, on est dans la décarbonation de l'économie. Carnet de commandes élevé. Très bonne exécution.
On garde. LDC. Les poulets.
LDC, on garde.
Airbus.
Airbus. Alors Airbus, on à court terme, on allégerait, mais on va garder quand même parce que c'est une bonne valeur diversifiante. C'est une rare valeur globale du portefeuille.
Ryanair,
on aime bien. On attend une saison d'été qui soit assez dynamique au niveau du tourisme. On en parlait tout à l'heure. Et avec une bonne capacité pour les compagnies aériennes à augmenter leurs prix compte tenu de... du manque de capacité en termes d'avions.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un bon track record?
C'est un bon historique de résultats.
Et concrètement,
ou de
à quoi on voit qu'il est bon?
Vous regardez sur 20 ans, qu'est-ce que la société a fait? Est-ce qu'elle s'est développée?
Est-ce qu'elle a fait ce qu'elle a annoncé? Oui.
D'accord.
Allez, et en dernier, c'est évidemment, on avait compris, c'est Saint-Gobain. Et Saint-Gobain, ça sera presque votre reco du jour. C'est-à-dire
On double la mise. On double la mise, si c'est possible, dans votre portefeuille.
Absolument possible.
La société au plus haut aujourd'hui, elle a annoncé des bons résultats qui confirment que finalement, malgré les fonds contraires de la baisse, elle réussit à continuer à maintenir des marges élevées malgré la baisse des volumes.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle. N'oubliez pas, on fait des records que vous pouvez toujours nous écouter, réécouter, voir en replay, en podcast. Et n'oubliez pas que vous devez venir le 3 mai à 15h pour une spéciale battle. On n'a jamais fait ça. On va tester. Vous êtes invités. Il y a un QR code sur l'écran. Sinon, si vous nous écoutez, vous allez sur le site de BFM. Venez nombreux, ça va être très sympa. Elle sera diffusée le vendredi d'après. À très bientôt.